C'est certainement le musicien le plus insaisissable de l'histoire du jazz, un véritable génie de la guitare, farouchement libre, parfois fantasque, toujours nonchalant. Jean Reinhardt, plus connu sous le nom de Django, Je réveille, a révolutionné l'instrument en même temps qu'il a contribué à la naissance du jazz en France. De ses débuts dans les bals musettes jusqu'à la scène du Café Society avec Duke Ellington, en passant par le quintet du Hot Club de France, l'histoire du mystérieux Django Reinhardt est de nouveau disponible grâce à la réédition au Rocher d'une biographie intitulée Django Reinhardt, le génie vagabond. Dans les matins de jazz, aujourd'hui, son auteur, Noël Balin. Bonjour.
Bonjour Étienne, bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes musicien, écrivain, on vous doit notamment l'Odyssée du jazz, un classique de la littérature jazz. Est-ce que vous vous souvenez quelles étaient vos motivations il y a quelques années maintenant, lorsque vous avez décidé de consacrer un ouvrage entier à la vie de Django Reinhardt?
Non, je ne me souviens pas précisément, si ce n'est que Django m'a accompagné depuis que je suis môme. Comme beaucoup de, et à la fois de musiciens et de jazzophiles ou jazzolâtres. Donc ça fait partie du paysage d'un petit Français qui débarque dans le monde musical et dont on sait que la référence absolue en termes de guitare, pas seulement manouche, comme vous avez dit tout à l'heure, mais simplement de guitare. Mmh. Parce que tous les grands guitaristes du monde, je pense à John McLaughlin, Pat Metheny, le citent en maître absolu, comme un personnage tutélaire qui est toujours sur leur épaule pendant qu'ils jouent.
Alors Django, c'est une vie totalement vouée à la musique. Il commence très jeune avec le violon et puis vers l'âge de 10 ans, il fait la rencontre du banjo. Ça, oui. C'est une étape décisive dans la vie du jeune Django.
C'est fondamental. Alors c'est un banjo-guitare, c'est-à-dire on est au-delà du banjo tel qu'on le connaît dans la western music, mais c'était assez pratiqué notamment dans les orchestres de musette dans les années 20. Et donc on lui offre dans le sein du clan, quoi. La tribu est installée... Porte de Choisy, sur les barrières des anciennes fortifs, du côté d'Italie au sud. Et il se trouve que toute la communauté joue, les cousins, les oncles, etc., dans les bars, également dans le campement. On lui offre cet instrument et puis il tâtonne, il gratouille, il regarde à peu près les plans que font les gens de la famille, c'est tout. Mmh. Hein. C'est vraiment une tradition orale qui se perpétue. Et il se trouve qu'il est très très doué. Voilà. Et là, il est le mystère déjà.
Porte d'Italie, porte de Choisy, porte de Saint-Ouen, c'est ce qu'on appelait la zone.
La zone.
À cette époque, Noël Balin, Django ne joue pas vraiment de jazz.
Il joue pas du tout de jazz. Il joue les traditionnels manouches, c'est-à-dire il est vraiment issu d'une tradition, d'une civilisation tzigane. Il est né à Liberchis en Belgique. Et puis c'est une famille itinérante quoi, qui passe la Première Guerre mondiale entre l'Italie, le sud de la France, la Corse et l'Algérie. Le père se volatilise quand ils sont en Algérie, donc la mère Negros, on l'appelait comme ça parce qu'elle était plutôt sombre, les ramène dans la roulotte qui se trouvait échouée dans la zone du sud de Paris. Mmh. Là, ils y retrouvent le clan et ils y vivent une vie de zigane errant, vivant d'expédients, on va dire ça comme ça.
Alors vous revenez justement dans cet ouvrage sur le fameux incendie de la roulotte de Django en 1928. Ouais. C'est un épisode qui a failli lui coûter la vie. Qu'est-ce que ça va changer pour le jeune Django Reinhardt?
Le 2 novembre 1928, il a 18 ans, il est jeune marié, sa femme est enceinte. Elle a des fleurs en celluloïde qu'elle doit vendre au port des cimetières parce qu'on est à la Toussaint. Il se trouve qu'il y a un incendie, il renverse une bougie, il sort, il est en feu, il est pour ainsi dire condamné. On considère que les brûlures sont tellement graves que les médecins envisagent de l'amputer.
D'une jambe.
Puis la main, on a eu des doutes aussi. Mmh. Et il refuse. Il passe un an et demi à l'hôpital, mais vraiment sur un lit de douleur. Quoi. Donc, il traverse toutes ses souffrances avec le soutien de son frère aîné, Joseph, qu'on appelle Ninine, et qui lui apporte une guitare. Et là, il commence à ébaucher quelques accords avec ses deux doigts restants, c'est-à-dire l'index, le majeur. Et le pouce, évidemment, parce que ça, sans le pouce, il ne pouvait pas pincer le manche.
Et c'est comme ça qu'il fait sa rééducation. Ouais. En quelques mois, il crée une technique totalement originale pour pouvoir improviser, pour pouvoir jouer les accords.
Original, le mot est faible. Hein.
Ouais, le mot est faible, ouais. Hallucinante. Et c'est à sa sortie de l'hôpital, en 1930, et l'année suivante, que Django fait la rencontre du jazz.
Bye.
TSF Jazz, 8h42, les matins de jazz avec Noël Balin pour la réédition de son ouvrage Django Reinhardt, Le génie vagabond. Au début des années 30, Django Reinhardt est sur la Côte d'Azur. Il fait la rencontre d'un certain Émile Savitri. Et je crois que c'est à ce moment-là, arrêtez-moi si je me trompe, Noël, que Django, la révélation pour le jazz.
Vous vous trompez pas du tout, c'est carrément une révélation mystique. C'est bien d'avoir passé Ellington là. C'est très heureux comme choix parce qu'à cette époque-là, effectivement, ça lui tombe dessus comme il est foudroyé, quoi. Comme un éclat de lumière, il reçoit Louis Armstrong et Duke Ellington, notamment sur les disques, les 78 tours, que lui passe Émile Savitri, un peintre qui est installé sur la Côte d'Azur. Mmh. Alors, il traîne entre Toulon, Cannes, Nice. Ils vivent en jouant dans certains restos, ils passent au chapeau. Il galère un peu, il est avec sa seconde épouse, il est plutôt amoureux, son frère le rejoint, il se reconstitue aussitôt un clan, il flambe, dès qu'il gagne trois ronds, il s'installe au George V.
Vous racontez ça à un épisode hallucinant.
Complètement dingue.
Il n'a même pas l'argent en fait pour s'installer au George V.
Et comme il est assez beau, il a une belle prestance, il est toujours très soigneux, il a une tenue, il se fait passer pour un prince hindou.
Ouais.
Finalement, le concierge du George V le croit, mais Ninine, dès le matin, va chercher de quoi payer la note. Donc ils vivent comme ça, après il loue une maison, il rencontre Louis Vola, qui a un grand orchestre et sur Toulon. Donc du coup, il enregistre avec Louis Vola dans le cadre de cet orchestre de danse. Hein. On n'est pas dans le jazz ni rien. Mais cette révélation du jazz est fondamentale parce que tout d'un coup, il passe de cette tradition orale manouche avec des morceaux comme Les Yeux Noirs, enfin les grands classiques de la musique zigane. Et là, il est foudroyé et tout change. Le développement des mélodies, les renversements harmoniques, l'extension rythmique. Donc il naît, on va pas dire, là, à ce moment-là, en 31, le jazz manouche, mais les prémices sont là, oui.
Et puis il y a une autre rencontre décisive, c'est celle de Stéphane Grappelli, un peu plus tard, et puis la création du quintet du Hot Club de France. Là, c'est le début du succès pour Django Reinhardt.
Succès relatif, parce que les premiers disques se vendent très très peu. Ils se rencontrent à l'Hôtel Claridge, où ils jouent, enfin, c'est des orchestres de danse, hein, classique. On est dans le music hall, vraiment, de l'entertainment. Et il se trouve que Stéphane Grappelli change de corde à son violon. Reinhardt est dans les coulisses. Grappelli s'accorde, il fait deux notes. Django lui répond, et il naît une amitié... puissante.
C'est étrange parce qu'ils viennent pas tout à fait du même milieu.
Ils viennent pas tout à fait du même milieu, mais en même temps quasiment, parce que les deux sont orphelins. Bon, le père de Django a disparu dans la nature, la mère de Stéphane Grappelli est morte, il a été élevé seul par son père. Donc c'est un petit titi de Paris, d'un milieu très 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 modeste. Tous deux se sont déjà croisés dans des cours des immeubles où ils jouaient à la manche et au chapeau. Donc finalement ils se sont croisés sans jamais se connaître. Et ils ont le même goût pour cette musique de jazz, mais en même temps l'un est très... précieux, raffiné, l'autre est un peu plus solitaire, frustre, mais il y a une complémentarité entre leurs deux natures.
Et puis c'est à ce moment-là, et avec cette formation du quintet du Hot Club de France, que Django fait ses premières rencontres avec les jazzmen américains.
Alors oui, parce qu'à l'époque, il y a tout un tas de musiciens qui viennent en tournée, notamment entre Londres et Paris. Tout ça est relayé par Charles Delaunay et Hugues Panassier, deux personnages fondamentaux de l'histoire du jazz en France et même dans le monde finalement. Charles Delaunay étant le fils de Robert et Sonia Delaunay, les plasticiens. Donc c'est plutôt un monsieur issu, enfin c'est un jeune homme à l'époque, mais de la grande bourgeoisie intellectuelle et artistique.
Mais avec aussi un intérêt pour la modernité.
Absolument, donc il y a des gens fondamentaux comme ça, on les retrouve. Les producteurs américains aussi sont issus de milieux très très différents, mais ils ont été vraiment les leviers et les protecteurs. Et donc ils créent le quintet du Hot Club de France, dans le sens où ce sont les musiciens qui font la musique et qui se retrouvent. Mais après, il faut bien soutenir les projets. Et là, il les met en relation avec les maisons de disques, il crée lui-même son propre catalogue, développe les tournées et les rencontres avec les musiciens américains se font très naturellement.
Alors lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Django Reinhardt là se trouve séparé de Stéphane Grappelli.
Oui.
Il le retrouvera en fait à la Libération. C'est une période sombre mais qui réussit plutôt bien à Django. Je crois qu'il enregistre son plus grand tube à cette époque avec le clarinettiste Hubert Rostin.
Oui. En 40, il enregistre Nuages. Donc ça c'est vraiment la scie musicale, c'est le grand titre. Mais c'est pas la meilleure version. Il n'était pas très content d'ailleurs. Je crois qu'il enregistre novembre 40, octobre 40, et il se trouve que Hubert Rostin remplace Grappelli parce qu'il est tombé malade juste au début de la guerre, à l'annonce même de la guerre. Il est resté à Londres, et Django se précipite, il rentre à Paris, et c'est presque une erreur, et politique. Enfin, Anzigan à Paris, occupé par les Allemands. Oui. Donc c'était le ticket pour le premier wagon pour un camp. Sachant qu'ils ont fait partie de la population la plus martyrisée avec les Juifs, etc. Eh bien non, il traverse la guerre de façon extrêmement innocente. Il est protégé par un officier allemand qui était absolument fan de sa musique, qui était très influent à la propagande Staffel. Et il se trouve qu'il a traversé les années de guerre dans la gloire, la reconnaissance, la protection. Il y a eu un épisode un peu rocambolesque où il essaye de fuir, à un moment donné, en Suisse. Ouais. Bon, je raconte tout ça en détail, on n'a pas le temps ce
il
matin.
Il s'est arrêté. Mmh.
Mais c'est très puissant comme époque. Il est même fêté en... On a du mal à imaginer, c'est carrément Madonna, quoi. Enfin, on est dans ce registre-là, c'est vraiment l'idole des jeunes. Et à la Libération, ils se retrouvent et la fraternité se renoue de façon extrêmement naturelle. Et sur un titre symbolique, c'est Echoes of France, qui n'est rien d'autre que la Marseillaise, qu'ils ébauchent de façon spontanée quand ils se retrouvent.
Ok. Eh ben, je vous propose d'écouter Nuages, oui. Madonna, avec voilà. Hubert Rostin.
Voilà.
SF Jazz à 8h51, Nuages par le guitariste Django Reinhardt. Noël Balin est toujours notre invité pour quelques minutes encore dans les matins de jazz. On évoque le parcours de Django à l'occasion de la réédition d'une biographie qu'il a signée il y a quelques années maintenant et qui s'appelle Le Génie Vagabond. Alors à la sortie de la guerre, Django est amené à rejoindre Duke Ellington pour une tournée aux États-Unis. Mais je crois que malheureusement, ce voyage, c'est une véritable déception pour le guitariste. Qu'est-ce qui colle pas à Noël Balin ?
C'est une magnifique déception. En fait, ils se sont rencontrés à Paris, dans les locaux de Rue Chaptal du Quintet, du Club de France. Bien sûr, Django rencontre le maître. Et le maître est totalement séduit par ce guitariste dont il perçoit l'exception. Quoi. Mmh. Il l'invite à venir le rejoindre à New York. Django s'imagine que voilà, la porte est ouverte et ça y est, il est en route vers la gloire, à moi l'Amérique. Donc il part avec une toute petite valise, mais à peine de quoi mettre une brosse à dents. Il prend le train Il va au Havre, il prend le paquebot, il a son manteau, sa petite valise, il n'a même pas sa guitare. Il pense être accueilli comme un héros à New York, il n'y a personne, il n'y a pas de guitare, il imagine qu'une marque va lui prêter son meilleur modèle. Il débarque dans l'orchestre de Duke Ellington, et là il s'aperçoit qu'il est une attraction. Le Duke n'a pas encore prévu de l'intégrer totalement à la grande machinerie du Big Band.
De l'orchestre, ouais.
Et il se trouve qu'il fait les premières parties, de temps en temps en trio avec Duke et puis une rythmique. Et puis ils font une grande tournée. Duke est très prévenant, il est bienveillant, il s'occupe de lui, mais sans plus. Il n'y a pas de projets musicaux vraiment très établis. Il n'y a pas de, notamment de séances de prévues. Mmh. Et on a des traces uniquement d'émissions de radio, le podcast quoi, américain, et c'est tout.
Ouais, un goût amer dans la bouche de Django Reinhardt.
Oui, après, il traîne dans Manhattan, il se retrouve à faire des gigs dans des hôtels, il rencontre Marcel Cerdan. Il a deux ou trois filles qui sont folles de lui. Voilà, il n'est pas d'une fidélité absolue, hein, Django.
Et il essaie de rencontrer aussi les musiciens du bop, Charlie Parker, Dizzy Gillespie.
Il ne sait pas les rencontrer, mais il sait que ça existe. Mais il est plutôt dans... Comment dire il profite de la vie telle qu'il l'a toujours fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le titre qui est clair, c'est le génie vagabond. Le génie, c'est un terme que j'emploie très peu, mais qui pour lui est essentiel, puisqu'il s'agit là d'un personnage visionnaire. Et puis vagabond, parce qu'on ne sait jamais, on ne trouve jamais là où il faut le trouver. Il est vraiment, il file entre les doigts. Et pour un biographe, c'est assez excitant. Il y a des périodes, des zones complètement blanches, enfin des zones d'ombre, on ne sait pas du tout où il est. Et là, dans New York, c'est plutôt une errance. Il finit par rentrer en France, très déçu, mais il repart finalement... Il repart sans repartir. Mmh. Il y a des périodes où il préfère réparer des meubles, se retrouver dans la zone du côté du Bourget, dans sa roulotte. Il est une vedette. On vient le chercher chez lui. Il joue de temps en temps. Mais il ne cherche pas vraiment à bâtir une carrière. Et le bop ne le dérange pas, la modernité ne le dérange pas, l'électricité ne le dérange pas, au contraire. Il s'y plie de bon gré, il découvre d'une nouvelle génération et il finit même par devenir un guitariste bebop. Il a compris tout de ce langage, de cet idiome savant, et qui est d'ailleurs pas plus savant que sa musique, parce que Django Reinhardt, c'est quoi? C'est à peu près 5 à 10 compositions par morceau. À chaque fois qu'il fait un trait, qu'il improvise, c'est une nouvelle composition, une nouvelle création. Et là est son génie, et là est sa puissance.
Alors si le génie est vagabond chez Django Reinhardt, l'homme à la fin de sa vie sédentarise un peu, il s'installe à Samois-sur-Seine.
Il se pose.
Il lâche pas vraiment la guitare, mais se consacre aussi à d'autres de ses passions.
Au billard,
la peinture, la pêche. Bon, la vie quoi.
Oui, c'est très beau la peinture de Reinhardt d'ailleurs.
Mais au début des années 50, il trouve ses marques avec des musiciens français, Roger Guérin, Hubert et Raymond Folle, Pierre Michelot, ce sont les rois du bebop à la française.
Et d'ailleurs, je conseille aux auditeurs d'écouter la version de Nuages. Ouais. Faite en 53, 2 mois avant la mort, elle est sublime.
C'est l'une des périodes les plus inspirées de sa carrière, c'est votre avis aussi?
C'est pas la période forcément la plus inspirée. Moi, franchement, vous parlez un Django-lâtre. Donc les années 30 avec Grappelli, c'est très très puissant. Après, il y a une période de flou, notamment des enregistrements en Italie qui sont moyens. Mais effectivement, là, on est dans un aboutissement et c'est un désastre parce que cette attaque cérébrale, il meurt soudainement, et il est emporté. Et là, il était à l'aube d'une nouvelle carrière. Je pense qu'il aurait pu essaimer encore plus large.
Merci beaucoup, Noël Balin, d'être venu ce matin.
C'était rapide.
Partager votre passion et votre tendresse pour Django Reinhardt. Votre ouvrage, Le Génie Vagabond, est de nouveau disponible aux éditions du Rocher. Merci beaucoup à vous. Et si vous souhaitez, chers auditeurs, prolonger le plaisir et mieux connaître l'univers de Django Reinhardt, je vous invite aussi à vous rendre à la fin du mois au festival Django Reinhardt de Samois-sur-Seine. C'est du 24 au 28 juin, alors n'hésitez pas à planter vos tentes au camping aux alentours. Je vous êtes sûr que vous sentirez l'esprit Django Reinhardt.